Interview.
2 jours.
Effectivement, je suis en direct de cette 23e rencontre. Je suis en compagnie de Benjamin Brice avec moi.
Bonjour.
Ouais, bonjour. Donc, vous intervenez à 14h. Votre thème, c'est envisager de véritables politiques publiques de sobriété. Vous expliquez comment l'évolution de notre situation nous oblige à repenser à nos orientations socio-économiques et à envisager de véritables donc, politiques publiques de sobriété. On va avoir le temps de s'attarder dessus. Je vais faire une petite brève sur votre parcours. Donc, vous êtes chercheur associé au centre Thucydide à l'université Paris-Panthéon à Sas. Vous êtes également donc, diplômé de l'ESSEC et docteur en sciences politiques de l'EHESS, ou alors
le HESS.
Le HESS, évidemment, du coup, ouais. Donc, vous avez écrit également un petit nombre de livres pour l'instant, j'ai envie de dire. Et on va avoir l'occasion d'y revenir sur votre bibliographie. Là, j'aimerais juste qu'on s'attarde sur l'impasse de la combativité. De la compétitivité.
Pardon. Compétitivité.
Compétitivité.
Ouais. Le mot est un peu obscur.
Le mot est un peu obscur, mais ça le fait. Donc, vous expliquez notamment dedans que dans une France où les défis s'accumulent, nous ne paraissons pas vraiment en mesure de les relever, de ces défis, comme s'il y avait un puissant blocage. Et ce que vous tendez d'expliquer dans votre livre, c'est que vous vous interrogez sur le fait que l'impératif de la compétitivité se révélerait de plus en plus en décalage avec l'état du monde actuel. Benjamin, pour que les gens ils puissent bien saisir ce à quoi on va discuter, et j'aimerais que vous me donniez quelques explications sur ça justement. Qu'est-ce que vous entendez par quel défi? Quel serait le blocage qui bloque ces défis? Et cette notion de compétitivité, décidément, qu'est-ce qu'elle veut dire concrètement?
Alors, merci beaucoup pour l'invitation. La notion de compétitivité, effectivement, c'est peut-être une limite du livre d'avoir mis ça dès le titre, et une notion qui paraît très technique, il y a beaucoup de syllabes, on ne comprend pas très bien ce que ça veut dire. Mais quand on écoute un petit peu le discours politique, donc le discours des dirigeants politiques, on s'aperçoit que c'est un mot qui, en fait, revient régulièrement. Et qui revient régulièrement, en général, pas pour rien, mais pour nous dire que nous ne pouvons pas agir. Ça a été particulièrement le cas avec Emmanuel Macron, qui, dans son livre ou au moment de son élection de 2017, a beaucoup parlé de compétitivité, mais également les présidents précédents, Nicolas Sarkozy et François Hollande. François Hollande, par exemple, a eu une sorte de tournant de compétitivité en 2014 dans son mandat. Dans le débat public, on se dit, par exemple, si on prend la question de l'écologie, que nous avons des grands défis devant nous, des défis à l'échelle mondiale, mais également à l'échelle française, et qu'il va falloir changer énormément de choses, parce que le réchauffement climatique, les pertes de biodiversité vont avoir des impacts majeurs sur nos vies, sur nos quotidiens, sur nos forêts, sur le climat, sur beaucoup de choses. Et le problème, en général, à se dire ben, pourquoi est-ce qu'on n'agit pas de manière plus résolue, c'est parce qu'il y a ce problème de la compétitivité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous ne sommes pas seuls dans un monde ouvert, interconnecté en termes économiques. Eh bien, si nous commençons à faire des efforts, mais que les autres n'en font pas, eh bien, nous serons mis de côté dans la concurrence internationale. Nous allons être, en quelque sorte, largués par rapport aux autres. Nous allons perdre des parts de marché. Nous allons donc perdre des emplois. Nous aurons moins de croissance. L'économie fonctionnera moins bien, etc.
Est-ce qu'il est là, le blocage, alors?
Donc, justement, la compétitivité, c'est cette pression extérieure, pression économique extérieure de la mondialisation, si on veut, qui nous empêche d'agir comme nous le voudrions si nous étions seuls, parce qu'il y a cette pression extérieure. Et on retrouve la même chose, par exemple, sur les inégalités ou les injustices, en se disant bien sûr qu'il faudrait moins d'inégalités, bien sûr qu'il faudrait sans doute plus taxer les riches, mais le problème c'est que nous sommes en concurrence avec d'autres pays qui ne font pas les mêmes choix, et le risque c'est qu'encore une fois nous soyons mis de côté dans la compétition internationale. Et ça peut se retrouver dans énormément de domaines. La compétitivité c'est cette pression extérieure, ou la manière en tout cas dont on la comprend, et qui fait que nos marges de manœuvre paraissent extrêmement réduites sur tous les sujets ou tous les défis que nous avons devant nous.
Maintenant j'ai envie de soulever un point intéressant avec vous. vous, c'est le paradoxe du pouvoir d'achat, où vous expliquez que d'un côté, les Français se plaignent de leur pouvoir d'achat, et d'un autre côté, vous dites que les Français n'ont probablement jamais connu une telle abondance matérielle. Pour donner un exemple, en 1984, 15% des logements étaient privés d'eau courante, de WC, de douche baignoire intérieure, enfin bref, contre moins de 1% en 2013. Est-ce que c'est possible de nous faire un petit zoom dessus sur ce paradoxe du pouvoir d'achat, en étant bref, évidemment ?
Alors, effectivement, quand on regarde, disons, il y a 40 ans, clairement, nous vivons de manière juste d'un point de vue matériel, beaucoup mieux qu'il y a 40 ans. Nos voitures sont plus grosses, plus sophistiquées, nos logements sont plus grands, nous voyageons beaucoup plus, nous parcourons plus de kilomètres, nous avons de nouveaux objets, par exemple des micro-ondes, tout le numérique qui n'existait pas à l'époque, donc nous avons une abondance qui est beaucoup plus grande. Et pourtant, malgré ça, la question du pouvoir d'achat est beaucoup plus au premier plan aujourd'hui qu'il y a 40 ans. Les gens sont beaucoup plus insatisfaits aujourd'hui qu'avant. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est qu'en fait, l'évolution du pouvoir d'achat a été très fort pendant les 30 glorieuses, disons les décennies d'après-guerre, a continué après parce que la France s'est endettée pour soutenir le pouvoir d'achat. Mais depuis une quinzaine d'années, disons depuis la crise économique de 2008, eh bien le pouvoir d'achat n'augmente presque plus. Et en fait, la crise du pouvoir d'achat, c'est le fait que nous sommes habitués depuis deux ou trois générations à augmenter notre abondance matérielle de manière très rapide et qu'aujourd'hui, du fait de la crise de la croissance et de la crise du pouvoir d'achat, ce n'est plus possible et ce qui crée toutes ces insatisfactions. Et le problème, c'est que, étant donné que la croissance, en tout cas qu'on a connue pendant les 30 glorieuses, n'a pas de chance de revenir dans l'immédiat, il va falloir qu'on repense nos manières de consommer pour avoir un niveau de vie qui puisse nous rendre heureux, tout en ayant un pouvoir d'achat qui risque d'augmenter encore faiblement dans les décennies à venir. D'où la question que j'étudie dans mes deux livres de la sobriété, ou en tout cas de la sobriété matérielle.
J'aimerais maintenant revenir sur cette donc 23e rencontre d'Audi. Vous êtes intervenant en ce début d'après-midi où vous donnez une conférence pour envisager une véritable politique de public de sobriété, justement. Benjamin, qu'est-ce que ça veut dire exactement envisager une véritable politique publique de sobriété ?
Bien, dans le débat public, le terme sobriété fait parfois un peu peur et en général associé à l'écologie. On se dit la sobriété, c'est au nom de l'écologie, mais économiquement, socialement, c'est pas forcément quelque chose de très bien pour le pays. Ce que j'essaye de dire, c'est qu'il y a plus de convergence qu'on ne le pense. Pour prendre un exemple, les combustibles fossiles, c'est-à-dire le gaz et le pétrole. Aujourd'hui, la France et même l'Europe ne produit pas vraiment de gaz et de pétrole et on en consomme énormément. On en consomme pour nous chauffer, pour se déplacer, etc. Là-dessus, il y a un intérêt à, disons, mener des politiques de sobriété. C'est essayer de voir toutes les manières d'en consommer moins, c'est-à-dire avoir des véhicules qui soient plus sobres, la rénovation thermique pour avoir besoin de moins de gaz pour se chauffer, revoir nos habitudes de consommation, etc. Parce que ça permet donc de moins émettre de gaz à effet de serre et donc moins de réchauffement climatique, bien sûr. Mais ça permet également, dans un pays comme la France, de moins importer de gaz et de pétrole, des importations qui, aujourd'hui en France, nous coûtent extrêmement cher et jouent dans le fait que la France soit en déficit et ait du mal aujourd'hui à financer, par exemple, ses services publics. Donc il y a un intérêt écologique, mais également un intérêt économique. Et il peut aussi y avoir un intérêt de pouvoir d'achat. Parce que si on arrive à changer nos modes de consommation, par exemple des véhicules plus sobres qui consomment moins d'essence, eh bien c'est aussi moins de pression pour le pouvoir d'achat des ménages.
Donc c'est quoi les objectifs concrètement de cette conférence ? Qu'est-ce que vous essayez d'amener, de transmettre ?
Alors les objectifs de cette conférence, c'est donc ce que je viens de vous dire, c'est de voir la sobriété de manière plus globale, pas seulement du point de vue écologique. Pour moi, c'est de rencontrer un public différent et nouveau qui, justement, chaque public réagit de manière différente, pose d'autres questions et ça me permet moi-même de remettre en cause les messages que je mets en avant et de réfléchir, disons, pour de futures recherches ou de futurs livres. Et essayer de faire passer ce message à un moment où aujourd'hui, au niveau européen, vient de sortir la boussole de la compétitivité. d'arriver à comprendre en quoi ce terme est en fait politique et nous concerne tous directement, et en même temps devrait être abordé d'une autre manière pour aller davantage dans le sens de nos intérêts collectifs à l'échelle française et à l'échelle européenne.
J'aimerais juste revenir sur votre bibliographie, c'est bientôt la fin de cette interview. Vous avez même co-écrit le livre en 2013, donc « Penser la violence collective » avec Cynthia Saloum. Oui. En 2022, vous avez écrit « La sobriété gagnante », donc, mais c'est pas tout, puisque la dernière parution, c'était en 2023. C'est un livre qui s'intitule « L'impasse de la compétitivité ». Compétitivité, mon Dieu, et ben dis donc. On en a parlé tout à l'heure, souvenez-vous. Avec tout ça, je me demandais qu'est-ce que vous retenez de tous ces ouvrages que vous avez écrits, que vous avez publiés. Ce qui m'en vient à la question suivante, qu'est-ce que vous essayez de transmettre avec ces livres ?
Alors, le premier livre était un livre que j'ai donc coordonné avec Cynthia Saloum et qui réunissait plusieurs chercheurs, donc je ne l'ai pas écrit directement, c'était plus l'introduction. Les deux derniers livres, Sobriété gagnante et Impasse de la compétitivité, clairement, la question que je me suis posée, c'est qu'est-ce que aujourd'hui nous, en France, politiquement, nous pourrions faire pour redresser la situation, car le consensus est quand même de dire que la situation n'est pas satisfaisante. Qu'est-ce que l'on pourrait faire? Quelles sont les politiques qu'on pourrait mener? Dans quelle direction est-ce qu'il faudrait aller? Donc c'est ce sur quoi vraiment portent ces deux livres. Et là, en ce moment, du coup, je suis en train de travailler à un livre sur la démocratie, parce que je m'aperçois qu'un des gros problèmes aujourd'hui pour, nous relever, c'est la perte de confiance un peu générale dans le système démocratique, parmi les élites françaises et même dans la France en général. Et donc là, l'angle que je voudrais aborder, c'est la question du nous gouverner nous-mêmes et donc la question démocratique.
Eh bien écoutez, c'était un plaisir. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'échanger avec moi.
Merci à vous.
Je vous dis au revoir et peut-être à une prochaine fois, quoi.
Très bien.
Vous écoutez l'interview du jour sur RDIWA.
La radio du DIWA.
107.5
101.7
FM.
Je suis en compagnie de Daniel Favre à l'occasion de cette 23e rencontre de DIE. Et justement, cette rencontre, elle propose des ateliers, des conférences, des films, des sorties, toutes sortes de choses. Et vous, Daniel, vous intervenez dans ce festival. Par exemple, hier, vous étiez intervenant sur le thème Entre raison et émotion, une société à la recherche d'une transformation écologique plus juste. C'était une conférence, ça s'est passé hier à 17h. Aujourd'hui, en début d'après-midi à 14h, vous proposez un atelier sur le drame du militant entre certitude et conviction. On va avoir l'occasion d'y revenir, mais tout d'abord, j'ai envie de vous dire bonjour. Comment est-ce que vous allez ?
Eh ben bonjour d'abord. Je vais bien, je suis ravi d'être interviewé sur ces questions que vous avez évoquées, parce que je suis persuadé que plus on comprendra comment fonctionne notre cerveau et les rapports que vous avez évoqués justement entre raison et cognition, entre raison et émotion, et de voir que ça forme un couple, ça me paraît extrêmement très important que le plus de monde possible prenne en compte cette particularité en tant qu'être vivant qui fait qu'on est très différent d'une intelligence artificielle, c'est que émotion et cognition fonctionnent ensemble et interfère l'un avec l'autre.
Donc je vais revenir un peu sur votre parcours. Vous êtes professeur honoraire maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire d'ailleurs, professeur honoraire ?
À la retraite.
Ouais, à la retraite. c'était à Montpellier, il me semble. Donc,
oui.
Vous avez fait un doctorat d'État en neurosciences.
Oui.
Vous avez eu un doctorat en sciences de l'éducation également. Vous avez été neurobiologiste de 1975 à 1990.
Vous êtes bien renseigné.
On va pas revenir sur toute la biographie parce que malheureusement j'aurai pas le temps. Mais je sais qu'aussi que vous avez écrit un bon nombre de livres sur la pédagogie et l'éducation. Par exemple, la dernière parution, c'était la quatrième réédition en juin 2024, de Cessons de démotiver les élèves, où vous proposez 21 clés pour favoriser l'apprentissage.
Et l'autorégulation.
Et des l'autorégulation, élèves. Évidemment. Et justement, qu'est-ce que vous retenez de tous ces ouvrages que vous avez publiés ? Qu'est-ce que vous apprenez de tout le contenu, de tout ce contenu que vous avez écrit ?
Eh bien, je crois que ce qui me frappe, c'est qu'on n'a pas encore tiré toutes les conséquences du cerveau que nous avons, qui est un cerveau dans lequel les processus cognitifs sont interfèrent et sont complètement dépendants des processus émotionnels et réciproquement. C'est-à-dire ce qu'on va ressentir va orienter nos pensées. Et donc, avec un cerveau comme celui-ci, il est important de se connecter avec soi-même, de se reconnecter avec son corps et de pouvoir tirer des conséquences de cela. C'est-à-dire que apprendre, par exemple, c'est une déstabilisation cognitive, mais pas que. Ça sera aussi une déstabilisation affective. Et comment on la ménage, comment on l'accompagne, cette déstabilisation affective et cognitive, est déterminant sur la suite au niveau des apprentissages pour les élèves. C'est-à-dire qu'ils peuvent à ce moment-là faire des blocages et on va penser qu'ils sont bêtes, alors qu'ils sont simplement au niveau affectif. Il y a eu une mauvaise rencontre quelque part qui s'est faite et ça peut être réversible, évidemment.
En tant qu'expert et chercheur, si je peux me permettre, qu'est-ce que vous pensez de la situation de l'éducation nationale du gouvernement actuel ? Quel est votre avis sur ce système éducatif qui est mis en place aujourd'hui ?
Depuis que je me suis occupé de la formation des enseignants, en 83, ça a commencé, j'ai vu qu'on avait tendance à séparer les choses, comme on le fait. Il y a la raison, la cognition. D'ailleurs, on parle beaucoup des neurosciences, mais généralement, on rajoute des neurosciences cognitives. Or, c'est le problème, c'est que si en recherche, on sépare les objets de recherche, on va avoir donc des chercheurs qui travaillent sur les neurosciences cognitives, d'autres sur les neurosciences affectives. Ce ne sont pas les mêmes revues, ce ne sont pas les mêmes chercheurs, mais pourtant, l'être humain qui serait concerné par ces recherches, l'être humain, lui, contient les deux aspects. Affectif et cognitif. Et je pense qu'on n'a pas assez tenu compte de ça. Donc le système de formation des enseignants actuels souffre du fait qu'on sépare les champs et qu'il va y avoir l'enseignement des, mettons, des disciplines ou des matières, selon comment on les appelle, et la didactique d'un côté, et de l'autre côté, la pédagogie générale, où maintenant on va aussi rajouter les compétences, le développement des compétences psychosociales, mais les deux sont séparés, parce qu'on a pris l'habitude de séparer le cognitif, la raison, et les émotions, voire de tenir à l'écart les émotions. Or, en nous, y a plein de, y compris quand on fait des mathématiques, où l'affectivité est engagée. Et sur le plan mathématique, pas seulement que du plaisir de résoudre des problèmes. Et cet aspect-là, il est un petit peu mis de côté. Alors, je vais donner juste un exemple. Il y a 2 ans, j'étais pris en stop. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de stop. Et près de là où j'habite. Et là, il y a une jeune femme, enfin jeune par rapport à moi, la quarantaine, qui me dit « Oh, mais je vous connais ». Alors, je dis « Oui, peut-être ». Il me dit, vous n'étiez pas formateur à l'UFM de Montpellier? Alors je dis, oui, si, si. Je dis, ben je vous ai eu. Alors on parle un peu. Et puis elle me dit, je lui demande, et comment ça se passe pour vous? Elle me dit, ben je suis prof de maths. Et je dis, avec des élèves, de quel quartier tout ça? Il dit, ben des quartiers d'ici, donc un quartier qui était, on va pas dire sensible, mais assez délicat. Et je lui demande, comment ça se passe avec les élèves? Elle me dit « Très bien ». Alors je lui dis « Est-ce que vous leur parlez du plaisir que vous avez, vous, en tant que prof de maths, à faire des mathématiques ?» Et elle me répond « Tous les jours ». Donc on peut associer ce qu'elle dit, ça va très bien avec les élèves, et avec le fait que l'enseignement des mathématiques n'est pas dissocié de tout cet aspect ludique qui fait que quand il n'est pas là, on cherche, on se dit « mais pourquoi faire des maths? Pourquoi s'embêter à faire des maths ?» Alors qu'il y a quelque chose qui est en soi autogratifiant et qui illustre d'ailleurs un travail qui a été montré en 2004, c'est que le cerveau des mammifères, quand on résout un problème, il traduit cela par une sécrétion de dopamine, c'est-à-dire un immense plaisir. Et au bout d'un moment à l'école, donc je réponds encore à votre question, au bout d'un moment à l'école, la recherche de ce plaisir intrinsèque, eh bien, il est oublié par les élèves, parce qu'ils l'ont quand ils ont été petits, comme chaque fois qu'on peut voir un enfant qui cherche, qui pose des questions, qui expérimente. À l'école, peu à peu, ce plaisir intrinsèque est oublié, et il est remplacé par travailler pour avoir des notes supérieures à la moyenne, pour ceci, pour cela, pour Parcoursup, pour plein de choses comme ça. Mais on ne le fait plus en référence à soi. C'est-à-dire on n'est plus des sujets apprenants, on devient plutôt des objets qui essayent de satisfaire les conditions pour que plus tard, ce ne soit pas trop mal dans notre vie. Et là, je pense que tous les gouvernements qui se sont succédés, à part une petite pause au moment où on a eu Benoît Hamon et Najat Benkassen, où là, ça s'est orienté différemment. Et d'ailleurs, en 2016, le harcèlement a baissé dans les écoles françaises. Mais depuis, le harcèlement ne fait que remonter. Ce qui fait qu'on bascule vers quelque chose qui est un peu addictif, comme ne travailler que si c'est noté. Et ne travailler que si c'est noté, par exemple, illustre le fait qu'on est passé dans une autre façon d'avoir du plaisir dans la vie, qui est le mode addictif. Et donc, on le voit, le mode addictif, des gens qui sont déjà riches, qui veulent être encore plus riches, des gens qui sont connus, qui veulent être encore plus connus, enfin bref, un truc sans cesse, toujours plus, quoi. Toujours plus qui ressemble quand même à notre société. Donc, je n'irai pas attaquer le gouvernement actuel sur l'éducation. C'est de longue date, cette séparation entre le cognitif et l'émotionnel. Et s'il y avait une chose à faire d'urgence, c'est justement prendre ensemble la complexité de l'être humain.
On va maintenant parler de cette fameuse rencontre de Die, je rappelle la 23e édition, avec pour thème « Coopérer pour un territoire vivant ». Comme je l'ai dit un peu plus tôt, hier, vous étiez en conférence. Le thème était « Entre raison et émotion, une société à la recherche d'une transformation écologique juste ». Est-ce que vous pouvez nous faire un petit zoom dessus, brièvement nous dire qu'est-ce que vous avez tenté d'expliquer, et aussi de nous dire c'était quoi les objectifs de cette conférence?
Alors, l'objectif, c'était ce dont j'ai parlé jusqu'à présent, c'est-à-dire de montrer qu'on est à la fois des êtres cognitifs et émotionnels. Et donc, la première chose à comprendre, c'est que notre cerveau interprète le réel. Il n'est pas forcément connecté avec le réel. Alors, on peut être plus ou moins bien connecté avec le réel. Et ce que j'ai essayé d'expliquer hier soir, c'est que plus on a des certitudes sur le réel, plus on se déconnecte du réel. Pourquoi ? Parce que le réel, c'est par exemple le climat, la météo, et toutes les capacités de calcul, les balises qui sont dans le Pacifique, dans l'Atlantique, aux deux pôles de la planète, des capacités d'ordinateur qui ont été démultipliées ces dernières années, ne permettent pas de franchir le mur des 14 jours. Au bout de les prévisions météorologiques, au bout de 4, 5, 6 jours, elles s'effondrent très rapidement. Et au bout de 14 jours, c'est tout et n'importe quoi. Donc, en gros, le réel n'est pas réductible à des algorithmes. Donc, ce qu'il faut en sorte, ce que je propose, c'est de pratiquer une hygiène dans laquelle on va faire attention de ne pas trop dogmatiser. C'est-à-dire de ne pas trop transformer nos idées en certitudes. Et pourquoi on va le faire ? Pourquoi on a tendance à le faire ? Parce que comme des enfants qui savent pas encore marcher, eh bien le déséquilibre de la marche fait peur. Donc on se tient, on se retient, on essaie d'accrocher des mains autour de nous, comme des enfants. Et quand on peut transformer une idée en certitude, on va s'appuyer dessus. Comme quand on était jeune enfant, on essayait de s'appuyer sur la main de papa ou de maman. Voilà, on en est là. Et il est donc urgent pour moi de s'entraîner à une pensée moins dogmatique et de comprendre qu'en nous, il y a plusieurs sortes de plaisirs. Il y a le plaisir de se sentir accepté avec des gens qui pensent comme nous. Ça, il ne faut pas, être avare là-dessus, c'est très agréable. Il y a un autre plaisir qui est celui de remettre en question ce qu'on pense pour le faire évoluer. Ça, c'est notre cerveau, il est fait pour ça. Il nous donne des récompenses chaque fois qu'on peut résoudre des nouveaux problèmes. C'est ce qui a fait que l'humanité s'est distinguée des autres espèces. Et puis, il y a une troisième possibilité, et c'est là le danger, quand cette troisième possibilité devient omniprésente, trop importante en tout cas, c'est l'addiction à des certitudes, où à ce moment-là, on peut s'entre-déchirer. Et ça peut être de la querelle, où on ne supporte plus l'autre qui est en face parce qu'il ne pense pas comme moi. On a vu à la période Covid que ça pouvait se dégénérer. Et j'ai eu beaucoup de questions. Qu'est-ce que je fais ? Je ne peux plus parler avec ma famille, avec mes collègues, au bureau, machin, etc. Et ma réponse était toujours très simple. Je disais, chaque fois que vous utilisez le verbe être au présent d'un négatif, essayez de le mettre au conditionnel, de mettre il me semble, d'après ce que j'ai lu, d'après ce que j'ai entendu, pour le moment.
Et ça, ce que vous essayez d'expliquer là, juste là, c'est les systèmes de trois motivations, c'est
oui.
bien ça
oui.
Vous avez donc
complémentaire et antagoniste.
Vous avez donc une autre intervention tout à l'heure à 14h. L'atelier se porte sur le drame du militant entre certitude et conviction. Qu'est-ce que vous essayez de soulever comme question avec le drame du militant ?
Eh bien, je crois que ça a été tout à fait problématisé par une personne à la conférence hier, qui à la fin, là, dans les remarques, les échanges, disait « Voilà, ben moi, ça me touche ce que vous dites parce que j'ai essayé d'être moins dogmatique. Et donc, j'ai travaillé pour être moins dogmatique. Mais avec cela, j'ai vu qu'à ce moment-là, j'avais plus d'idées très tranchées. Alors, elle a pris l'exemple de Trump. Elle me dit « Après tout, Trump, je ne connais pas, je ne sais pas. Mais j'ai vu que j'étais plus dans le « Trump, c'est ceci, c'est cela » ou dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs. J'ai vu que par rapport aux termes des fois très, très forts de l'écologie militante, eh bien, ça me faisait plus, ça me motivait plus. Alors voilà un petit peu l'entrée, c'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe si on n'a pas quelques idées, je dirais un peu simples, un peu précises, concrètes, pour être militant ? Est-ce qu'on peut être encore militant sans avoir des certitudes absolues sur les choses ? Et qu'est-ce que c'est qu'être militant ? Voilà, donc c'est réinterroger un petit peu le qu'est-ce que c'est qu'être militant aujourd'hui. C'est se battre pour le CO2, contre le CO2, c'est se battre contre, je sais pas, le... Ben bref.
C'est vraiment ce qui m'a inspiré pour cette dernière question, cette personne qui vous a interpellé hier à la conférence. C'était la dernière question, il me semble.
Oui, enfin, dans les trois dernières.
Oui. Vu que ça s'est enchaîné et que c'était à l'infini. Écoutez, merci beaucoup d'avoir pris le temps d'échanger avec moi, Daniel. C'est la fin de cette interview. C'était un plaisir, merci beaucoup.
Ben, merci à vous et merci pour ce temps que vous m'avez consacré.
Et pas de soucis, c'est avec plaisir. Je vous dis au revoir et à la prochaine.
Oui, volontiers.